revue de presse de l'April, promouvoir et défendre le logiciel libre.
Semaine 12, année 2016, salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Eh bien, cet article ?
En partant de zéro, hein, à l'informaticienne, oui, parmi ces 8 articles, donc 11 lignes de code qui font trembler Internet, la face sombre d'Internet, le code source des administrations françaises qui serait publié en libre, Red Hat et son chiffre d'affaires, les développeurs et leur goût plus ou moins fort d'OS X, l'espérance de vie des ordinateurs doublée grâce au logiciel libre, des aides aux développeurs de logiciels libres à New York, et pour finir, un article assez conséquent sur le logiciel libre, l'avenir de l'informatique, mais avec une orientation médicale.
Numerma, comment une marque commerciale et 11 lignes de code retirées ont fait trembler Internet ? Un article d'Alexis Pirena.
Donc ça a fait un peu trembler effectivement les murs la semaine dernière. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un développeur qui contribuait sur Node.js, donc en fait la plateforme de développement JavaScript, qui s'appelait Azer Kozulu.
Un nom turc.
Un turc, et qui avait développé des petits modules, en fait, dont un qui s'appelait Kik. Et en fait, Kik était une marque déposée, donc il s'est bouffé les avocats de la marque qui lui ont demandé s'il pouvait retirer son module, et il a refusé de le faire parce qu'il a dit il n'y a pas matière à agir là-dessus, il n'y avait pas de risque de conflit ou autre.
De son point de vue,
en tout cas. Et donc, il a tenu tête aux éditeurs. Et sauf que les éditeurs ont été un peu plus loin, ont contacté carrément la plateforme de Node.js en demandant est-ce que vous pouvez retirer le contenu. Et ça n'a pas du tout plu aux développeurs qui a juste fait un gros reset de son compte pour tout supprimer ce qu'il avait fait depuis le départ.
Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, effectivement, l'hébergeur a donné suite à la demande et donc a effacé le bout de code, enfin ce machin qui s'appelait Kik, et donc l'autre dit vous effacez mes trucs, donc j'enlève tout, et ça a eu des conséquences.
Et oui, parce que dans le tout, il y avait une petite librairie de 11 lignes de code dont il est question, ça s'appelle LeftPad, un truc tout idiot, tout simple, qui devrait honnêtement, tellement il est commun et utilisé partout, qui aurait dû être intégré à... Alors, c'est un environnement dit JavaScript, langage JavaScript, mais c'était pas le cas, et donc tout le monde en fait dépendait, avait mis son petit bout de code comme dépendance de leur projet, et quand ils ont voulu utiliser leur projet, rebuilder leur projet, le reconstruire, retravailler dessus, eh bien ça s'est écroulé parce qu'il manquait cette brique.
Par dépendance, tu veux dire qu'en gros ils faisaient appel à ce petit bout de code plutôt que de le faire eux-mêmes, même si ce n'était que 11 lignes, de dire là pour là vous faites appel à ce code qui existe à l'extérieur.
Voilà. Exactement, et c'est un des grands avantages du logiciel libre, et c'est même un encouragement, un rêve qui datait des années 70, des années 80 en informatique, dans libre, on peut le faire, on peut avoir des dépendances et on encourage les gens à avoir des dépendances, à réutiliser, sauf que là, malheureusement, dans cet environnement JavaScript, c'était un petit peu mal géré, c'était peut-être un petit peu laxiste, ils ont permis de supprimer cette dépendance qui a fait s'écrouler plein d'autres logiciels, au moins temporairement.
Et donc il y a eu des vraies batailles, ça a été assez troll sur ce sujet-là, parce que ça a levé justement plein de problèmes sur la gestion des dépendances, sur JavaScript en lui-même, sur l'environnement, est-ce que les développeurs Node.js auraient dû ou pas dû répondre aux problèmes des avocats, enfin voilà, ça a vraiment beaucoup trollé sur le sujet. Il n'y avait pas vraiment de réponse de bonne ou de mauvaise. Après, donc, la plateforme Node.js a fait un peu demi-tour en remettant en ligne les modules ou autres, mais c'est vrai que ça a été un peu géré dans l'urgence. Mais quand on voit ce qu'une pauvre bataille de droits des marques et commerciales a pu engendrer, c'est assez phénoménal.
Notons, le développeur, il n'a pas été méchant parce qu'au final, il aurait pu vraiment refuser qu'on remette son projet en place, ce projet de 11 lignes. Non, il a accepté, il a dit bon, vous vous débrouillez, vous le remettez sous votre nom si vous voulez. Effectivement, il fallait le remettre rapidement pour aider tous ces projets qui en dépendaient. Donc, éviter de leur casser les burnes plus longtemps, mais il aurait pu faire du blocage.
Paris-Normandie, enquête sur la face sombre d'Internet, comment se protéger d'une délinquance envahissante. Un article de Joss Huet.
Donc une grosse plongée dans le Darknet, puisque c'est le gros terme à la mode en ce moment, que nos petits dirigeants aiment bien. C'est un article qui est assez conséquent, il est assez long, et par contre il fait bien le tour de la question, donc il va
parler... Sérieux, hein.
Il est assez sérieux, c'est vraiment avec des pointures sur le sujet de la sécurité informatique qui parlent. Et donc ils font le tour de toutes les escroqueries, arnaques, toutes les extorsions de fonds, ou les virus qui peuvent se balader sur Internet, et en essayant d'expliquer comment est-ce qu'on peut faire pour faire gaffe à ça et se protéger contre tout ça. Donc les deux intervenants sont Franck Ono et Gabriel Villiers, et leurs conseils sont plutôt pas trop mal. Donc si vous avez envie de vous mettre un peu à l'abri, lisez cet article-là, et puis il y a pas mal de choses à en retirer.
Donc c'est intéressant de voir un article aussi fouillé dans un article de presse régionale, finalement.
Oui, on s'y attendait pas, Normandie, c'est très bien. Alors c'est Gabriel Villers. Donc rien de grave, ça arrive, mais pour le coup ce serait dommage de prendre son nom alors un petit peu de mauvaise façon. Allez jeter un œil, en tout cas, vraiment pas mal. La cyberdélinquance, on en a peur, à raison ou à tort, mais à un moment donné, faut creuser de sur quoi ça correspond, quoi, à quoi ça correspond.
Et il parle de logiciels libres quand même aussi.
Bah carrément, alors c'est plus sur la fin, effectivement, et nous on le dit depuis longtemps, il faut utiliser du logiciel libre pour maîtriser un peu plus son informatique, plutôt qu'être maîtrisé par elle. Donc il y a quand même des portes de sortie dans tous ces problèmes et dans toutes ces peurs, mais ça n'empêche, hein, il faut connaître le reste, c'est quoi du phishing, c'est quoi le darknet, est-ce qu'il faut vraiment avoir peur, ou est-ce que c'est simplement des endroits auxquels on n'a pas accès. Donc il y a vraiment pas mal de choses à creuser.
Silicone.fr, le code source des logiciels publics librement accessibles, un article d'Ariane Becky. Donc ouais, c'est troisième ou quatrième semaine du même sujet, il n'y a rien de neuf là.
Non, voilà, c'est juste la publication qui va avoir lieu donc le 1er avril. Donc si vous voulez venir au hackathon
d'avril, en fait.
On n'espère pas en tout cas.
Ah non, il y a un hackathon qui va être organisé le 1er avril. Ce serait dommage qu'ils fassent que des bêtises, hein, et ce sera peut-être l'occasion. Non, je crois que c'est Etalab qui organise ça le 1er avril, parce qu'en fait, ils ont déjà accès au code source donc de ce simulateur des impôts qui fait vraiment rêver et qui va peut-être être utilisé par d'autres pays plus tard. Donc ils ont déjà travaillé un petit peu sur l'outil pour favoriser, pour aider à ce que le hackathon se passe au mieux et que vraiment plein de gens puissent en faire des choses très intéressantes. On ne doute pas qu'il y a des économistes qui vont prendre ce genre d'outils et qui vont le développer, le manager, l'améliorer, bien pour en déduire des choses sur l'économie française.
Mais rappelons que toute la démarche avait été initiée par un chercheur, donc un thésard, qui faisait des recherches sur les niches fiscales. Donc de base, cette personne avait besoin pour faire de la recherche et pour s'emparer de tout ça. Développé.com, Red Hat réalise 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, un article de Michael Guillou. Bon alors, 2 milliards de chiffre d'affaires annuel, c'est une belle somme, ils avaient fait 1 milliard il y a quelques temps, ils gagnent de plus en plus d'argent, c'est ça?
Ça augmente, justement, il y a une grosse croissance dans le monde du logiciel libre, et Red Hat, c'est l'emblème un petit peu de cette réussite, parce que on peut gagner de l'argent avec le logiciel libre, c'en est l'exemple et la démonstration, c'est pour ça que d'ailleurs on a cet article dans la revue de presse.
Alors Red Hat, ils font quoi pour les resituer?
Donc Red Hat, ils ont développé une distribution Linux à eux, donc qui maintiennent et donc ils font payer du support pour les entreprises.
C'est une des premières distributions, voilà. N'oublions pas, c'est même
c'est une des plus vieilles, voilà, c'est vraiment un des fondements de
une distribution de plutôt pour des applications techniques, serveurs, etc.
Oui, enfin, ils font en tout cas du support pour l'industrie, pour le côté professionnel, mais la distribution est utilisable par tout un chacun, et en particulier, si vous ne voulez pas du support de Red Hat, vous pouvez vous aller sur CentOS, vous pouvez l'installer chez vous sans aucun problème, sauf que vous n'aurez pas le support de Red Hat, et donc c'est un bon exemple qu'on est capable de se faire de l'argent avec du logiciel libre, puisque malgré l'existence de CentOS qui pourrait vous le rendre gratuit, qui vont dire que Red Hat pourrait être complètement gratuit, voilà. Ils arrivent à se faire de l'argent.
C'est du libre, donc en gros CentOS prend tout ce que fait Red Hat, tout le bon travail de Red Hat, et ils disent pouf, je change le nom et je vous le file gratos, et donc on pourrait dire ils pillent Red Hat, mais au final ça n'empêche absolument pas Red Hat de prospérer.
Et Red Hat au contraire est content, hein, parce que du coup ils n'ont pas à gérer le côté communautaire de la distribution, eux ne se focalisent que sur la partie professionnelle, et CentOS gère justement la relation avec les communautés, les forums, les discussions, les patchs, etc. Donc c'est vraiment une relation de gagnant-gagnant, et il n'y en a pas un qui a bouffé l'autre.
Et par contre, dès que tu veux professionnaliser un petit peu ce que tu as mis en place, tu es dans une entreprise, au début tu commences avec CentOS, tu bidouilles avec, on va dire, hein, tu commences sans poser de questions, mais à un moment donné, tu veux professionnaliser tout ça, tu veux un support, tu veux quelqu'un qui va surveiller un petit peu de plus près, eh bien t'appelles Red Hat et tu fais un deal avec eux, hein, y a de l'argent à mettre en jeu, parce que ils te fournissent un vrai service assez sérieux de ce que je sais, ça peut être très pratique.
ZDNet France, les développeurs désormais plus friands d'OS X que de Linux. Un article de la rédaction.
Bon, c'est un peu une mauvaise nouvelle pour nous, hein, ça quand même. Hein. Et encore quoique. Mais effectivement, il semblerait que les développeurs soient de plus en plus friands d'utiliser Mac OS X plutôt qu'un Linux ou un Windows. Donc sur les graphiques, Windows est clairement un peu en chute libre, avec peut-être Windows 10 qui est quand même en train de remonter un peu. Mais en tout cas, c'est pas très très clair. Par contre, oui, Mac OS X est vraiment en train de bien monter là-dessus.
Alors manifestement, si on en croit le graphique, il remonte pas très très loin. Puisqu'il remonte à 2013, hein, donc c'est des évolutions quand même sur 3 ans. Sur ce genre de pratique, c'est pas considérable. Mais depuis quelques années, Linux et macOS X ou 10, c'est la même chose, étaient au coude à coude. Et là, il y a clairement, sur la dernière année présentée, une remontée de macOS X.
Alors, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on met en avant les développeurs. Hein, c'est quand même une démarche et une population bien particulière. Et là, ils présentent ces populations, donc avec 20% à peu près qui utiliseraient du logiciel libre, 20% qui seraient passés à 25% qui utiliseraient justement de l'Apple. Mais en gros, quand on regarde le gorille là-dedans, c'est que Microsoft continuerait à avoir une masse de 50% des développeurs. C'est pas rien. Ça ne diminue pas de manière sérieuse. Dès qu'on tombera en dessous de cette barre des 50%, ça risque d'être important. Mais ça n'empêche, probablement, Microsoft s'intéresse à ce sujet et ils veulent pas perdre les développeurs. Donc ils vont un petit peu dans le sens de l'ouverture de leur code. C'est peut-être une des raisons.
Surtout que Apple avait justement aussi s'est ouvert un peu avant Microsoft, puisque leur plateforme de développement Xcode a été ouverte et mise à disposition gratuitement sur Apple. Donc du coup, je pense que Microsoft a dû enchérir derrière pour justement ouvrir leur plateforme aussi visuelle, le mettre à disposition sous Apple, parce qu'autrement ils sentaient bien que le vent du boulet allait passer et que ça allait pas être très bon pour eux.
Supposition de ma part, je sais même plus s'ils en parlent dans l'article, je revois. Dans quelle mesure c'est pas aussi le succès des iPhones, des tablettes, des iPads qui fait que ça attire des développeurs dans le monde Apple, parce que bah voilà, faire une application iOS, il y a plein de gens qui veulent le faire. Parfois à cause du miroir aux alouettes de je vais devenir millionnaire grâce à une application iPhone, mais ça n'empêche, ça attire du monde.
Green IT, doubler son espérance de vie grâce à Linux, un article de Frédéric Bordage. Alors c'est son espérance de vie, enfin surtout celle de son matériel informatique.
Oui, en fait là la démonstration qui est faite c'est que matériel plus ou moins équivalent, un poste sous Linux sera beaucoup plus efficace et performant qu'un poste sous Windows, pour plein de raisons hein, déjà parce qu'effectivement c'est mieux codé, mieux développé, c'est plus propre, donc du coup ça marche plus vite. Et aussi parce qu'il n'y a pas besoin d'antivirus ou plein de tous les trucs, les anti-malware et autres qu'on a tendance à rajouter sous Microsoft si on veut pas se faire verrouiller de partout.
Après tu peux choisir tes couches graphiques, hein. Dans Windows il n'y en a qu'une, il n'y a qu'un environnement graphique, on n'a pas le choix, alors que dans le monde libre, eh bien, on peut utiliser plein d'éléments différents, de systèmes de bureau différents.
Voilà, et du coup si le système de bureau devient trop lourd, parce que effectivement il s'est mis à jour et donc il y a besoin d'avoir plus de ressources, on peut basculer sur un bureau beaucoup plus léger, et en particulier aujourd'hui on arrive à faire tourner des Linux sur des machines qui ont 10 ou 15 ans d'âge, alors que c'est juste absolument impossible de faire tourner un Microsoft avec ce matériel-là.
Voilà, rappelons que Windows s'alourdit avec le temps, c'est-à-dire que même s'il tournait bien au début, force d'installer des installés, etc., on retrouve un truc de plus en plus lourdingue, et que ça c'est une constante, et que très souvent les gens changent d'ordinateur à cause de ça. Autre truc très intéressant dans cet article, c'est qu'il se contente pas d'affirmer, il a fait une sorte de benchmark, comme on dit, c'est-à-dire une comparaison, où il va démarrer l'ordinateur et calculer une image en 3D, et chronométrer tout ça, et il arrive à des résultats assez surprenants, c'est-à-dire que non, un ordinateur sous Linux n'est pas plus efficace à puissance égale, c'est bien mieux que ça.
Oui, parce que là, en gros, la comparaison est faite, en gros, il y a un 4 cœurs sous Windows alors qu'il n'y a que 2 cœurs sous Linux, et pourtant Linux le fait en 2 minutes quand Windows en est quasiment à 3,5.
Et celui avec le logiciel libre date de 2008, alors que l'ordinateur sous Windows il date de 2013.
De 2013, donc voilà, c'est juste
assez. Donc il est plus performant avec un matériel deux fois moins puissant
et deux fois plus vieux. Donc les chiffres sont assez parlants, hein, mais bon, après il faut regarder dans le détail, parce que c'est vrai qu'ils partent d'une machine complètement éteinte, donc il y a des morceaux qui sont pas
justement,
forcément.
Justement, ça doit jouer parce que tu utilises alors c'est une Xubuntu qui l'utilise, quelque chose d'assez sobre, il va pas y avoir beaucoup d'effets, il va pas y avoir beaucoup de choses qui s'installent, et justement c'est ça qui est intéressant, c'est tellement sobre que ça va juste vite, et ça n'empêche, hein, c'est quand même une distribution à jour récente, ça n'empêche pas.
Oui, le bureau c'est XFCE, qui est un bureau très léger et qui effectivement fonctionnellement est quand même très léger aussi, mais qui tourne et
qui suffit largement pour la plupart des cas, hein, pour une utilisation
moi je sais que j'ai essayé de l'utiliser et c'est quand même assez faible, et je préfère utiliser du GNOME que du XFCE.
Oui, donc là il te faudra la machine de l'année prochaine pour le faire tourner, c'est ça?
Non, les versions des forks de GNOME 2 marchent très bien sur des machines assez anciennes. Hein. J'ai un PC portable qui a plus de 10 ans et je fais tourner Triskel, la dernière version, qui est une dérivée d'Ubuntu avec un bureau GNOME 2, et ça marche nickel. SiliconANGLE, New York considers tax breaks to developers of open source software. Un article de Mike Whisley.
Quelque chose d'assez intéressant qui est en train de se passer à New York. En gros, ils vont vous faire un crédit d'impôt qui peut aller de mémoire jusqu'à $200 pour une année. Donc si jamais vous êtes développeur...
Petit crédit d'impôt.
Ouais, ça peut toujours être bon à prendre. Hein.
Honnêtement, c'est plus symbolique et c'est ça qu'on note. Hein. Mm. Le fait qu'on veut aider les développeurs de logiciels libres, donc c'est la ville de New York, mais quand même quelque chose de conséquent. Et ben, potentiellement, ça pourrait être tous les États qui se mettraient à aider, parce que bien les développeurs de logiciels libres, ils aident la communauté.
Voilà, et puis ils considèrent que justement les open sourcistes ou les libristes développent sur leur temps libre, et donc du coup ils contribuent à faire marcher l'économie aussi comme ça, et donc si on leur donne un petit bonus en utilisant ça, c'est la juste rémunération d'un temps passé.
SIH Solutions, le logiciel libre, l'avenir de l'informatique, point d'interrogation, un article d'Albert Felippo.
Donc ce site, on n'arrive pas trop à comprendre de quoi il s'agit en fait.
Ouais, hein. On ne sait pas si c'est le site d'un éditeur de logiciels, est-ce que c'est un agrégateur de contenu, un site de news, on ne sait pas très
bien. En tout cas, ça parle de santé.
Oui, tout ce qui est médical, hein, le H, donc ça doit être service informatique hôpital ou hospitalier, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, l'article est plutôt intéressant, conséquent, et il aborde beaucoup de sujets qui nous concernent, que ce soit la licence, l'accès au code source, le support, donc moi j'ai bien aimé.
C'est vrai que pour le côté professionnel, hein, pour quelqu'un qui ne connaît pas trop ce que c'est le libre, open source, de relire cet article-là, ça balaye assez bien le panorama actuel du logiciel libre, et avec les solutions pragmatiques qu'on peut mettre en place dans les entreprises, la virtualisation, la maturité...
C'est pas si long, hein, c'est surtout des paragraphes assez courts.
Petits paragraphes,
donc si vous voulez voir un panoptique un petit peu de ce qu'on fait dans le libre, virtualisation, les interfaces graphiques, la maturité, toutes ces choses-là, il y a des paragraphes assez rapides, honnêtement, allez jeter un œil, c'est pas mal.
Ah, mais on a fait le tour de cette revue de presse. Merci Manu, merci Nico.
À la semaine prochaine.
Bonne semaine à tous.